Plume de guerre. D'après les carnets de guerre de Léonce Moreau.
La chouette 13. Quand je revins à moi, j'étais dans les bras d'un Américain. Je le connus au langage. Il me transportait à une voiture ambulance et je fus mis sur une litière, en haut. Sur celle du bas, on déposa un lieutenant, à la poitrine tout entourée de pansements, saturée de sang. On le glissa avec d'infinies précautions. Après le départ de Moulin Rouge, je m'aperçus que la voiture roulait doucement, en contournant des entonnoirs d'obus. Puis je fus pris par un engourdissement. Plus tard, de vives douleurs me réveillèrent. La tête me faisait horriblement mal. Malgré tout, une de mes premières préoccupations fut de savoir si mon carnet m'accompagnait. Je me retrouvai dans une grande salle propre. Ce devait être au château ambulance de Borieux que j'avais été déposé. J'eus une grande surprise. Je me retrouvai à côté du camarade Stegel. Il me dit avoir été blessé aussitôt après moi, en même temps que Jussiam, qui, lui, était absolument resté sur le carreau. Clamsé, selon son expression. Pauvre Jussiam, pensais-je alors, il ne souffrirait plus. Dire que nous avions partagé une boîte de saumon il y a à peine quelques heures. Qui sur terre pouvait penser à lui à présent? Mais combien d'autres? Stegel ajouta.
Tu te rappelles quand tu foutais le camp? Que tu gueulais que t'étais mort? Et tes corps là, bleusailles?
Oh, tu sais, j'étais tout bouillie de sang qui coulait. J'étais peut-être déjà dans le tirage. Et ce fut tout comme conversation. On préparait les piqûres contre le tétanos. On les faisait à la cuisse. Stegel passait le premier, et je regardais. Il avait pour le moins 35 ans, 15 ans de plus que moi, et apparemment le cœur dur comme un pachyderme, puisque la première aiguille se brisa, et l'on en remit une autre. C'était mon tour. L'aiguille rentra en moi, comme dans du beurre. Mais soudain, je me sentis défaillir, alors que j'entendais l'infirmier dire à ses aides. « Vite, soutenez-le! Vous voyez pas qu'il tourne l'œil ?» Et je tombai à nouveau dans le coma, je ne sais combien de temps. Je dus être réveillé plus tard par les soubresauts du camion qui m'arrachait des plaintes. La voiture devait rouler sur les pavés de Fismes. Un peu plus tard, alors que je m'étais à nouveau évanoui, j'eus l'impression qu'on me saisissait la tête. Je sentais le grésillement d'une machine et des cisaillements semblables à ceux d'un coiffeur. J'ai dû faire un bien long dodo. J'ai l'impression de sortir d'un mauvais rêve. Comme un enfant qui s'éveille à la vie, je regarde autour de moi, avec des yeux nouveaux et étonnés. Mais cela arrivera-t-il à effacer l'affreux cauchemar vécu? J'en doute, puisque mes premières pensées floues ont été vers ces visions d'épouvante, vers ces charniers apparents ou invisibles. Seulement, ma pauvre tête semble peser 1000 kilos, et tout effort pour la tourner d'un côté comme de l'autre est vain. Durant les jours suivants, je ne coûterai pas cher à l'État pour me nourrir. Je ne peux pas lever la mâchoire et la fermer sans éprouver une sensation étrange et douloureuse, et je redoute que la plaie s'ouvre sous le pansement. Je peux seulement ingurgiter un peu de liquide. Ce sera surtout du coco, genre de breuvage au goût de réglisse. Et puis j'ai droit à une prescription de 18 centilitres de vin par jour. Je n'ai jamais su de façon nette ce qui s'était passé après mon départ du ravin d'Urtebise. Le seul écho que j'ai pu avoir de l'attaque est que les Allemands auraient pris 3 lignes de tranchées en raflant le bataillon du 90e et auraient pénétré jusqu'aux batteries d'artillerie de la vallée Foulon. Puis une contre-attaque française aurait aussitôt rétabli la situation. Outre cela, un vague bruit, et c'était plausible, faisait état que 27 hommes de la 3e et 4e section du 290e, restant dans le ravin, auraient été faits prisonniers. J'ai su que le lieutenant Flocon et le caporal Sier s'en étaient sortis. En revanche, je n'ai eu aucune nouvelle du capitaine de Verneuil, du sergent Clouet, de Ferroux et de Carnevaux. D'après mes souvenirs, Maria était de corvée de soupe quand l'attaque s'est produite. Mais qu'était-il advenu de Louis? Par ailleurs, le ventre du capitaine Morand avait dû encore prendre de l'ampleur, puisque j'avais appris qu'il avait été promu commandant. Mon principal souci maintenant serait d'aviser mes parents de mon état de santé, car ils devaient être très alarmés d'une longue absence de nouvelles, et ma mère, dont le cœur est bien malade, devait être broyée d'inquiétude. Le 29 juillet, l'infirmier, sur ma demande, m'avait remis une carte spéciale, sur laquelle je n'avais que quelques mots à mettre, avec ma signature, pour prouver mon existence. Dans une partie réservée, mon adresse était indiquée. Hôpital d'évacuation, numéro 13, salle 3, secteur postal 103. J'arrive 3 jours après, au prix d'un grand effort, à rédiger les quelques mots qui pourront tranquilliser mes parents sur mon sort. J'en suis satisfait. Enfin, j'essaie aussi par de leurs mouvements, en m'aidant des deux mains, à tourner ma tête, un peu à gauche et à droite, mais sans pouvoir cependant la décoller du chevet. Par petits exercices, j'espère y parvenir rapidement. Ce qui me hante aussi, c'est de savoir ce qu'il y a sur les fiches suspendues, au pied de mon lit. C'est un clown unijambiste, qui habite en face, sur l'autre rangée, me permettra de le savoir. Sur un bulletin, le diagnostic est libellé ainsi. Extraction d'un éclat d'obus, grosse noisette, ayant pénétré au niveau du bord antérieur, du sternoclédomastoïdien, et inclus dans l'épaisseur de ce muscle. Angle de la mâchoire, ablation du trajet de la chambre d'insertion. Suture. Opéré les 27-7-1917, à 5h. Autochir de la Chaux E13, signé Dichiara. Il m'était donc permis de constater que j'avais été opéré, exactement 24 heures après avoir reçu le pruneau. Voyons maintenant le bulletin de température. 39,4 degrés au début, et progressivement descendu à 38,7. C'était satisfaisant, cela me rassérénait. J'avais tout espoir de m'en tirer maintenant. Au fil des jours, je constatais une amélioration lente, mais maintenue. Mais il ne fallait pas faire d'imprudence. Restez très sage, ainsi que me l'avait dit le docteur Dichiara. Il prononçait Dichiara, en ajoutant.
Alors, fiston, tu t'en tires à bon compte. Chance pour toi, parce que le projectile affleurait la carotide et tu sais, la moindre érosion t'aurait mis capoute.
Il continuait rapidement sa visite journalière. Dichiara, chirurgien italien, venu sur le front français, connaissait admirablement notre langue. Il était grand, brun, débordant d'énergie. Il passait pour être un excellent chirurgien, et surpassait d'après les dires même le docteur Dumont, pourtant habile, lui aussi. Comme Guillemère, l'as aviateur, Dichiara en sa matière était aussi dénommé l'as. Mais tous les patients du baraquement l'appelaient aussi le grand boucher, sans y apporter un sens péjoratif, ni injurieux. Dichiara le savait, mais il ne s'en offusquait pas.
« As boucher, c'est tout comme !»
disait-il. À la chirurgie, il opérait en tablier, calotte blanche et gants de caoutchouc jusqu'au coude. Le phénomène du bistouri avait coutume de dire à ses aides.
« Allons, dépêchons, vite, ma hache, mon couteau, mes ciseaux !»
Et il allait dans la bitoche, dans le lardon, disaient certains. Là, il était à son affaire. Tout cela nous était révélé, à nous les nouveaux, par ceux que j'ai désignés, les chevronnés. En particulier par trois unijambistes, dont les lits étaient en face de moi, dans l'autre rangée, par-delà le couloir. Ils avaient été réunis pour faciliter les soins. Ils étaient là, côte à côte, comme trois frères. La salle 3, comme les autres, était pourvue de 42 blessés. Nous subissons une piqûre antitétanique tous les 8 jours. En plus de la piqûre hebdomadaire, le médecin-chef prescrivait aussi un purgatif au sulfate de soude pour améliorer, disait-il, les selles. Cette bonne tisane devait être absorbée de façon absolue, mais on n'en constatait guère les effets. La dose administrée par les infirmiers devait être bien réduite. De toute évidence, ils ne souhaitaient pas faire de zèle pour aller vider les vases à chaque instant. Et de notre côté, nous nous gardions bien de faire la moindre réclamation. Les anciens affirmaient que les oxytéritors étaient plus dévoués. Ils ajoutaient même que les titulaires infirmiers ne se faisaient pas faute de prélever sur les rations de vin allouées à tous et de remplacer le manque par de l'eau. Avec 18 centilitres par jour de vin fraudé, il n'y avait pas d'ivrogne chez nous. Le lendemain matin, il y eut un grand branle-bas dans la salle. Il devait y avoir une visite importante. Il fallait bien que tout soit propre et en ordre autant que possible. Le chef infirmier fit en dernier sa ronde pour examiner de son œil expert. Quand la porte du front s'ouvrit, on vit faire éruption un groupe serré au costume brillant. À leur tête, il y avait un homme grand avec un képi aux feuilles d'or. Il clama en mots secs et tranchants.
« Que tous mes braves du 9e corps lèvent le bras, ceux qui le peuvent, du moins. »
C'était le général Niessel. Le général a commencé par notre travée. Et au fur et à mesure qu'il approche, notre curiosité grandit. Il est suivi par une brillante clique, des officiers, le médecin-chef de l'hôpital, les chirurgiens, les infirmiers, les infirmières. Mademoiselle Debray en fait bien sûr partie. Enfin, le grand chef Niessel s'arrête au lit indiqué par les chirurgiens, écoute leurs notes, et rapidement, d'une voix incisive, en serrant des mains, il a pour chaque blessé une phrase de réconfort, variée, jamais vulgaire. Il sait trouver les mots. Quand il arrive à hauteur des trois unijambistes, le général dit en passant
« Avec la vie, vous avez le plus beau trophée de guerre qui soit. La patrie vous en sera reconnaissante. »
À la suite, je reçois ma part de félicitations, puis autour de mon camarade de lit. Il était blessé en haut du bras droit, près de l'épaule, où il avait un gros pansement. Comme pris d'une impulsion subite, il arriva à soulever celui-ci avec un visible effort et déclara
« Mon général, je me suis battu comme un lion. Je devrais voir la croix de guerre. »
« C'est très bien d'être aussi brave !»
dit Niessel, et s'adressant à son officier d'ordonnance.
« Inscrivez-le pour son mérite !»
La visite se fit rapidement. Après que se fut évanoui l'éblouissant cortège, une tête s'était légèrement soulevée d'un lit.
et il me semblait reconnaître la voix railleuse et traînante de Stégal. Il égrena à peu près ses paroles.
« Dis, petit mecton, t'es un rien gonflé, écraneur, et t'as-tu joliment la cabane quand tu dégueules comme ça que tu t'es battu comme un lion et que tu chialais pour l'avoir, ce rubanceau, non ? Mais j'imagine que t'étais pas plus revif que les copains quand elles voltigeaient ces brisures de marmiton et ces doum-doum de poivrière, non ? Mais, dis, tu te marrais peut-être de voir tous ces anges bleus qui chatouillent la bidoche. Mais je te vise et tu faisais gnouf comme Mézig et les Camaros. »
La voix s'abaissait, et je ne pus saisir la suite. Mais ses paroles empreintes d'accent faubourien semblaient conscientes, lucides, et ne provenaient nullement d'un homme en plein délire. Pourtant, dans la nuit qui suivit, ses voisins de dortoir furent très surpris de voir des ombres, telles des fantômes, tirer du lien long corps inerte et pantelant, pour l'envelopper mystérieusement vers un autre linceul. Le plus solide d'entre nous venait donc de rejoindre les camarades qui s'étaient noyés sous les tempêtes de fer et de feu. Mon voisin, l'engagé volontaire Marshall, âgé de 19 ans, semblait réjoui à la pensée d'une jolie décoration, et cela l'agitait fort. Le lendemain matin, il ressentait un malaise, et disait-il, de forts picotements sous son pansement. Sa température l'accusait un peu, mais dans le cours du jour, cela empira. Et le soir, sa fièvre avait fait une forte ascension, et je remarquai que par instant, ses yeux se révulsaient d'inquiétante façon. Il était visible que cela n'allait pas, et l'infirmier principal fut alerté, puis l'examina. Ce fut en début de nuit que des brancardiers vinrent le prendre avec précaution et l'emmener. Il n'y avait pas de doute, sa blessure s'était gangrénée. Je ne pouvais m'endormir, et comme une obsession, ces mots me revenaient quand il avait dit à Niesel : Mon général, je me suis battu comme un lion. Comment pouvait-il s'être battu comme un lion, à moins d'avoir été seul contre 4 ou 5 Allemands, et de les exterminer à la baïonnette ? Et comme les autres, il s'était certainement fait tout petit contre une paroi de tranchée, sous le miaulement des balles de mitrailleuse et les cinglantes gifles des éclats d'obus. Et quel pouvait être le malin à tenter de braver toutes ces machines infernales, inventées, créées par l'homme, pour le détruire ensuite. À certaines heures de la nuit, on ramena Marshall. On le remit dans le même lit, avec beaucoup de soin. Cela sans faire de bruit. Il avait un bras en moins, amputé au ras de l'aisselle. Le jeune camarade Marshall fut longtemps à se débattre entre la vie et la mort. La dévouée et brave infirmière Mademoiselle Debray venait assez souvent se rendre compte de son état. Et l'aumônier qui passait en distribuant des livres et des journaux à ceux qui le désiraient était plus attentif que d'habitude. Ce matin-là, nous vîmes entrer dans la salle, avec quelques surprises, deux dames fort bien mises et visiblement affectées. Sans doute avait-elle usé d'habile diplomatie pour avoir pu obtenir du médecin-chef une permission de visite. Les deux dames n'étaient autres que la mère et la fiancée de Marshall, et une fois en sa présence, elles purent juger l'état dans lequel il était. Avec un regard intensément fixe, c'était à peine s'il sembla les reconnaître. Elles se concertèrent du regard, et avec l'immense tristesse qui les envahissait, elles prirent avec courage l'attitude la plus digne qui soit. Elles n'allaient pas en ce milieu même, entourées de 40 grands blessés, laisser exposer leur chagrin. Se concertant à nouveau, un court instant, elles déballèrent de leurs sacs les victuailles et multiples friandises qu'elles avaient apportées, et en s'adressant à moi pour dissimuler leur peine, retenant péniblement leurs larmes, elles dirent
« Brave ami !» Nous vous laissons cela. Vous pouvez en user comme vous voudrez, avec la promesse de lui en donner à chaque fois qu'il vous le demandera. Nous en garderons l'espoir et prierons Dieu. »
Puis, retenant leurs larmes, elles s'en furent après un dernier regard et baiser rapide, évitant ainsi une défaillance possible. Si l'intervention avait été difficile, elle avait sûrement rayé le tétanos, puisque Marshall revint peu à peu à la vie et put manger quelques friandises. Puisqu'il aimait les décorations, il a eu d'office la croix de guerre, la médaille militaire due à tous les mutilés. Intérieurement, je pensais, avec un membre en moins, merde pour le trophée. Au fil des jours, la vie devient difficilement supportable. Les combats là-haut devaient avoir repris de plus belle, parce que des blessés arrivaient sans cesse. C'était pour la plupart de gigantesques noirs de 100 kilos qui faisaient plier les brancards, arrachés de leur pays. Congo, Sénégal ou Côte d'Ivoire, alléchés par des primes d'engagement et une habile propagande, ils avaient été enrôlés, avait subi quelques instructions et envoyé au massacre. Depuis que j'étais alité salle 3, un certain nombre de camarades avaient déjà été évacués pour faire place à des nouveaux. Mais certains d'entre eux, trop gravement atteints, venaient expirer là, après des plaintes et des heures de douloureuse agonie. Pour ceux qui s'agitaient trop, les infirmiers venaient les sangler sur leur lit, avec des draps. Peut-être pour nous éviter une épreuve supplémentaire, on ne venait que dans la nuit, pour enlever le plus discrètement possible les dépouilles de ceux qui avaient trépassé. Au cours de l'une d'entre elles, je pus compter jusqu'à 3 allées et venues. Il n'était pas difficile de comprendre combien l'atmosphère était pesante. Ce qui était surtout pénible, c'était ses sempiternelles plaintes. Depuis le début, j'étais entouré de solides Africains, également blessés à la face, qui se distinguaient par des signes particuliers, selon la tribu à laquelle ils appartenaient. D'ailleurs, nous avions été photographiés par le docteur Dicara. Le célèbre chirurgien italien publiait une revue pour démontrer l'état des blessures par classement et les résultats de ses opérations. J'étais naturellement désireux d'avoir ce cliché et lui en avait demandé la réplique. Mais malheureusement, je ne l'obtins jamais. Ces deux noirs s'appelaient l'un Akelebele, l'autre Mamadou Sissamba. Celui-ci parlait très bien le français et était très intelligent. Il m'arrivait de lui demander des renseignements de leur vie africaine, leurs origines, leurs mœurs. Mais autant ils restaient fermés sur certains points, autant ils étaient volubiles sur d'autres. Il y avait aussi un certain Kikoso, que tous connaissaient bien, parce que c'était lui qui se chargeait de ramasser les assiettes au repas, malgré sa grave blessure. Ce petit travail lui permettait ainsi d'engloutir les quelques restes qu'il trouvait, y compris les os. On disait que certains d'entre eux pouvaient avoir pratiqué le cannibalisme dans le passé. Mais que devaient-ils penser de la plus grande guerre civilisée? J'en suis là, à ma 4e semaine. Je ne m'alimente pas beaucoup mieux. Le liquide passe, mais des contractions de la mâchoire m'interdisent toujours de pouvoir mastiquer des aliments solides, tels que la viande. Je me contente du coco et du vin pour toute nourriture. Quant à ma blessure, elle semble aller vers la guérison. On ne refait que très rarement les pansements, mais tous les 8 jours, la piqûre antitétanique est de rigueur. Comme j'ai perdu presque tous mes objets personnels, hormis mon carnet,
j'emprunte une petite glace pour vérifier l'état de ma blessure et soulève doucement le pansement. Je retire ainsi, avec précaution, des parcelles de sang séché et amalgamées dans les poils et les cheveux, avec de la terre ou des saletés. Malgré l'absence de toilette régulière, cette sorte de gélatine qui apparaît entre les points de suture semble se raffermir chaque jour davantage.
Donc, tout allait pour le mieux.
À côté de moi, l'amputé Marshall semble aussi sortir de sa léthargie. En cette 4e semaine, je pus quitter le lit, et comme un bébé chancelant, je fis mes premiers pas.
Mademoiselle Debray, l'infirmière, me demanda certains jours si j'étais capable de tenir la tête d'Akelebele, afin qu'elle puisse cautériser la plaie au nitrate d'argent. C'était, disait-elle, un travail délicat, et il ne fallait absolument pas que le patient bouge. J'affirmais pouvoir le faire, et m'en acquittais. Oui, oui, fis-je.
Mais aussitôt que je vis l'atroce blessure, j'eus un moment de répulsion. Elle était située derrière la tête, à la base de la nuque.
On voyait les veines et les cervicales de cette partie du crâne mise à nu. Par quel miracle, cet Akele était-il encore vivant? L'infirmière avait l'habitude. Avec souplesse et délicatesse, elle effleurait toute la surface à traiter. Historiquement, Akele se laissait faire, sans broncher. Heureusement, Mademoiselle Debray avait de la personnalité et de la distinction. De ses mains fines, semblait rayonner comme un fluide. Son visage était fin, rassé. Elle ne laissait percer aucune émotion. Faisant son devoir avec calme et simplicité, courageuse aussi, car il ne fallait pas ignorer que ce n'était pas sans danger, surtout ces jours-ci, car bien qu'une grande croix rouge fût tracée au centre de l'hôpital, cela n'empêchait pas les avions allemands d'y venir jeter quelques bombes. La chaudière de Courlandon était située à côté de dépôts de ravitaillement et de munitions, au point que la salle de chirurgie toute proche fut mise à mal. On pouvait voir des boîtes carrées de fer blanc contenant des paquets de pansements criblés d'éclats. Heureusement, tous les baraquements bessonneaux étaient sains de rangées de sacs de terre jusqu'à hauteur d'homme, limitant ainsi les dégâts. J'en reviens à nouveau à louer le dévouement de Mademoiselle Debray, en particulier. Et comme elle m'avait pressenti pour plusieurs séances de soins,
je me plaisais à l'entendre disserter,
car la compagnie d'une femme était devenue rare. De plus, elle aimait converser, répandre ses connaissances, donner des détails sur ce qu'elle avait vu et vécu.
Si elle parlait de Georges Guimer, c'était avec passion. C'était son héros, ce Blanc Begdas. Elle l'avait déjà rencontré et elle aurait voulu qu'elle lui raconte les détails de ses prouesses. Ensuite, notre infirmière en revenait au caractère,
aux drôles demeures de ces Africains,
aux cheveux si fins, aux lèvres épaisses et aux dents si éclatantes.
Ces fétiches et ces amulettes que vous voyez à leur cou, pour eux, c'est sacré. Ce serait tabou. Et pire, sacrilège que d'essayer de percer le mystère de ce qu'il y a à l'intérieur de ces sachets de cuir. Mamadou Sissamba, que vous connaissez et qui parle bien le français, m'a dit qu'il n'a pu en reconnaître qu'un seul, sur les centaines de Noirs passés ici. Ils viennent de pays grands comme 10 fois la France et appartiennent à des tribus, combien différentes et nombreuses. Quand ils sont tout jeunes, même peu après leur naissance, sont faites au rasoir de légères coupes sur leurs joues et leurs visages, ce qui forme des cicatrices allant en s'élargissant au fur et à mesure de leur développement. C'est là la marque distinctive et indélébile de la tribu à laquelle ils appartiennent. Certaines cicatrices sont horizontales, longitudinales ou bien encore de biais. Observez aussi leur chevelure. Certains ont des mèches torsadées ou bien de petits points tonsurés. Combien d'autres signes encore? Et les anneaux?
Comme j'étais arrivé à un certain stade de familiarité avec l'infirmière, distant, mais respectueux tout de même, je me suis enhardi à lui demander si elle voulait m'accepter comme filleule de guerre. Et elle me répondit gentiment.
Mon cher ami, sincèrement, je suis au grand regret de vous refuser. J'ai déjà, je pense, au moins une bonne centaine de filleules, et je ne puis plus me permettre de surcharger mon excellente secrétaire qui a la charge de s'occuper non seulement de la correspondance, mais aussi de l'expédition des colis.
Je comprends, mademoiselle. Merci tout de même. Je n'étais pas vexé. D'ailleurs, comment mademoiselle Debray aurait pu me décevoir? Je soumis une autre doléance, mais là au docteur Dicara. Docteur, je pense être transportable à présent, pour être évacué sur un hôpital de l'intérieur. Ce sera pour bientôt, j'espère. Il faut dire que j'avais de plus en plus de mal à supporter ces gémissements, ces agonies et ces morts qu'on emportait la nuit. Justement, ce jour-là, il y eut un grand branle-bas dans la salle. On apprit qu'il y avait une représentation de théâtre aux armées, réservée aux blessés, qui avait moins de 38 degrés de température. Ceux qui dépasseraient d'un ou deux dixièmes seulement en seraient exclus. Par chance, je pouvais en être. À l'heure prévue, on était transportés sur des civières. Par cet ardent soleil d'août, nos brancardiers durent avoir très chaud et nous disposèrent dans une grande salle afin que l'on puisse voir et entendre. La scène du fond très bien décorée. De toutes les nombreuses salles constituant l'hôpital, arrivait un contingent de spectateurs emmaillotés. Cela ne manquait pas de pittoresque. La salle fut bien garnie. Puis l'heure arrivée, sous le fronton, le rideau s'ouvrit sur le théâtre aux armées. Nous passâmes quelques heures de belles distractions, dispensées par d'excellents chanteurs et de véritables artistes qui nous développèrent un spectacle agréable, varié, où tour à tour, le comique, le sentimental et le poignant alternaient. Peut-être aussi y avait-il des passages où l'on exaltait le patriotisme à l'excès, à notre point de vue. Mais c'était de circonstance. Puis la représentation se termina par un film où Charlie Chaplin, le célèbre Charlot, était la vedette. Il effaçait, supplantait Max Linder du début, dont l'étoile pâlissait. Je n'étais pas au bout de mes surprises ce jour-là. Ce fut pour moi l'occasion de rencontrer le curé de la paroisse de mon village natal. Le prêtre Bonnet avait su, en feuilletant les registres de l'hôpital, que j'étais hospitalisé depuis un mois.
Ma religion était d'indépendance, ancrée au fond de moi. Mais je n'avais pas la moindre animosité envers l'excellent curé Bonnet, que j'avais plaisir à recevoir en tant que pays, bien que je ne fusse pas de ses fidèles.
Ce que j'admettais à peine, je l'ai déjà dit, c'est l'intégration pure et entière, par la loi Millerand, de tous les ecclésiastiques dans les services sanitaires. Ce fut avec le prêtre Bonnet que je fis ma première sortie au dehors. Mais j'étais bien faible, et notre promenade se limita à aller examiner les alentours de la salle de chirurgie assez proche. Comme nous revenions, alertés par des clameurs, et fixant nos regards vers le nord dans le ciel pur et clair, on put voir trois de nos saucisses successivement abattues par un avion allemand. Ce raid fut exécuté avec une rapidité déconcertante, et nos cigognes n'étaient pas là. Sur trois observateurs, un seul d'entre eux avait eu le temps de sauter en parachute. Le lendemain, le prêtre Bonnet revint me proposer une autre promenade, plus longue cette fois. On franchit la vaste piste sableuse, dessinée d'une croix rouge. On alla jusqu'au cimetière, où s'alignait un nombre incalculable de croix en bois. Un moment de tristesse nous étreignait à la pensée de toutes ces vies disparues. Puis, l'abbé Bonnet disserta sur les incessantes alertes qui l'obligeaient à rejoindre les abris, du fait des bombardements et des dangers qu'il encourait chaque jour. Alors que j'entendais les coups de canon au loin, je ne pus m'empêcher de lui répondre. Vous savez, on doit être à 10 ou 15 kilomètres des lignes. On ne risque pas grand-chose par rapport à là-haut. Peut-être l'abbé Bonnet vit-il là un reproche, alors que j'avais le sentiment de ne dire qu'une pure vérité. Toujours est-il que je ne le revis pas. Il est vrai que dès le surlendemain, j'avais quitté la chaude de Courlandon, après un séjour d'un mois.